André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, cinquième cassette, deuxième face, page 127. Gaspard revint cependant aussitôt, et il entendit une auto qui ronflait dans un garage. On avait dû téléphoner au médecin, et sans doute on allait chercher M. Drapeur. L'auto sortit du garage. Le Chinois vint ouvrir la double porte de la grille. Gaspard s'effaça dans l'ombre d'un mur. Peu de temps après, arriva la voiture du médecin. Un quart d'heure plus tard, la première auto revint. M. Drapeur en descendit. Sur le perron, il fut accueilli par la gouvernante qui gémissait. « Elle avait voulu, j'avais pourtant veillé. Enfin, le docteur espère la sauver. » M. Drapeur écarta cette femme non sans brutalité et entra dans la maison. Un silence absolu suivit ses démarches. On avait certainement transporté Hélène dans une chambre située de l'autre côté de la maison. Aucune lumière sur la façade, sauf celle du vestibule. Gaspard fit le tour du jardin, qui était entouré d'un mur élevé. Il ne pouvait pas l'escalader et cela n'aurait servi à rien. Si Hélène mourait, ce serait sa faute. Il aurait dû mieux vérifier la résistance de la corde. Peut-être aussi la corde avait-elle frotté sur l'angle d'une pierre, tandis qu'Hélène se balançait. Gaspard se mit à marcher. Il suivit une rue qui le mena dans la campagne, et sans se rendre compte, il parcourut une assez longue distance. Des larmes coulaient de ses yeux jusque sur ses épaules nues. Il s'était finalement engagé dans un sentier qui aboutissait à une impasse formée par des rochers. Au-dessus des rochers, il y avait un bois de pins. Ces pins étaient tous morts. Ils prenaient dans la clarté de la lune des dimensions énormes. Un grand oiseau de nuit monta au-dessus de leurs branches dépouillées. Gaspard se jeta à genoux. Il pria, puis il revint vers la ville. Ce fut par hasard qu'il arriva sur la plage, juste à l'endroit où il avait caché sa ceinture. Il buta sur le monticule de sable où elle était enfouie. Il la reprit, gagna le bord de l'eau. Il resta un moment à réfléchir, les pieds dans l'eau. La lune avait disparu. Les vagues étaient faibles et l'étendue de la mer ressemblait à celle de la Meuse et des canaux dans la demi-obscurité du jour naissant. Où était ce beau temps de l'espérance ? Gaspard remonta vers le port et il regagna le bateau juste au moment où la lumière de l'aube baignait déjà les mâts et la cheminée. Sur le yacht, tôt ou tard, il aurait des nouvelles d'Hélène. Aussitôt qu'il fut dans son réduit, il quitta son pantalon mouillé pour un autre que le maître coq lui avait alloué. Il s'étendit sur le plancher et s'endormit. Un marin vint le chercher assez tard ce matin-là et lui ordonna de nettoyer le pont. « Quand repart le bateau ?» demanda Gaspard. « On ne part plus, jeune homme, » répondit le marin. « Pourquoi on ne part plus ?»« Il y a eu du grabuge cette nuit. » Le marin refusa d'en dire plus long. Cette journée-là et le lendemain, Gaspard travailla dans l'angoisse. Il prépara les repas pour les deux marins qui lui imposèrent en outre de multiples asticages. Le maître coq n'avait pas reparu. 3 jours après, Parpoil arriva vers la fin de l'après-midi, comme Gaspard frottait à tour de bras les plaques de cuivre de l'escalier. L'homme était un peu ivre.
« Eh bien, jeune homme, lui cria Parpoil, n'est-ce pas une magnifique croisière que vous faites là ?
On se lève, monsieur, quand on vous parle. »
Gaspard quitta son ouvrage et s'avança vers Parpoil.
« On laisse son chiffon pour écouter ceux qui vous font l'honneur de vous parler, » continua Parpoil.
« Eh bien, jeune homme, voyez où mènent les beaux rêves.
La propre fille de M. Drapeur a voulu se sauver. Et maintenant, elle va mourir. »«
Elle ne va pas mourir !»
cria Gaspard avec une sorte de rage.
« Elle va mourir !» répéta Parpoil. « Elle délire. Elle parle d'un grand pays. » Un pays imaginaire, bien entendu, avec des bouleaux et des palmiers.
Ha ha ! Elle dit qu'elle va fuir là-bas avec un nommé Gaspard Fontarel.
C'est toi, Gaspard Fontarel.
C'est moi, dit Gaspard avec fermeté.
Comment a-t-elle su ton nom? L'a-t-elle appris du cuisinier?
En tout cas, elle supplie pour qu'on la laisse te voir. Elle plaint le petit prisonnier, comme elle dit. Mais elle délire, et le médecin défend les visites. Il ne tiendrait qu'à moi. On te jetterait à l'eau, tout simplement, jeune crétin.
Elle ne va pas mourir, dit Gaspard, et elle reverra son pays. Vous pouvez me flanquer à l'eau, si vous voulez.
Parpoil lança à Gaspard une telle gifle que le garçon chancela.
En attendant, cher nouveau-né, cria Parpoil, nous allons te fourrer à fond de cale. Monsieur Drapeur décidera de ton sort.
Il appela un marin qui entraîna Gaspard comme à regret. Au moment de descendre l'escalier de la cale, Gaspard résista et se tourna vers Parpoil. Il lui cria,
« Je vous mets au défi de rapporter mes paroles à Hélène. Hélène, tu oses parler d'Hélène ?»
Parpoil s'avança et lui lança au visage une volée de coups de poing, puis il le renversa et lui écrasa le visage avec son soulier de telle façon que le marin protesta.
« Assez ! Jamais assez pour cette race de jeunes singes qui veulent décrocher le paradis !»
Parpoil ressemblait à un grillon obèse, mais il n'avait pas le caractère pacifique du grillon. Gaspard, bien qu'il eût le visage couvert de sang et fût à peu près incapable de se relever, continua à parler.
« Je vous mets au défi de dire à Hélène qu'elle reverra son pays. Jamais vous n'oseriez le lui dire. Vous avez peur que ça arrive. Jamais vous n'oseriez lui dire que Gaspard Fontarel a juré qu'elle reverra son pays. »
L'homme semblait soudain dégrisé. L'état pitoyable où il avait mis le jeune garçon, l'attitude vaguement menaçante du marin, les paroles de Gaspard le surprenaient. Sa colère était tombée. Il ne chercha qu'à la justifier et à prendre une attitude propre à sauver sa dignité. Il parla avec une cruelle froideur.
« La leçon aura suffi. Débarbouillez ce jeune homme, dit-il au marin. Quant à vous, monsieur Gaspard, je lui transmettrai vos paroles pour vous faire plaisir et pour me montrer courtois jusqu'au dénouement, jusqu'à ce que cette jeune fille paye très cher le prix d'un rêve, cher monsieur. Il suffit d'une corde qui case, voyez-vous.
Parpoil se mit à rire. Le marin releva Gaspard. Il le conduisit à la cuisine, le lava à grande eau, lui fit boire un cordial.
Ce soir, tu viendras avec moi dans la cabine de l'avant, dit le marin. Je te raconterai des histoires du pays.
Parpoil était passé simplement pour faire une inspection rapide ou pour chercher un objet. Presque aussitôt, il avait repris le canot et regagna la ville. Gaspard demeura tout le reste de la journée étendu sur une chaise longue. Le marin qui avait assisté à la scène et son compagnon prirent sur eux de procurer cet agrément au jeune garçon. Gaspard regarda avec admiration et avec une grande tristesse le port, la ville et surtout la plage et cette maison éloignée où Hélène se mourait. Un soleil éblouissant pesait sur toute chose. L'eau, profondément bleue, demeurait immobile. Le soir, Gaspard mangea avec les marins. Ils parlaient un langage où le flamand se mêlait au français.
« Il faut travailler longtemps, il faut toujours travailler, » disait l'un.
« Je ne demande qu'à travailler, » disait Gaspard.
« On peut aussi espérer qu'il y a de belles choses à voir en ce monde, » disait l'autre.
« Selon la volonté du Seigneur, » reprenait le premier.
Les marins racontèrent des histoires jusqu'à minuit. Ils laissèrent Gaspard dormir sur un lit dans leur cabine. Quand on raconte des histoires, on attend toujours une autre histoire. Et Gaspard, le lendemain et les jours suivants, tout en vaquant à ses besognes, attendait qu'une histoire lui vînt de la ville et de la maison d'Hélène. Elle arriva par bribes, un jour après l'autre. Chacun des deux marins, qui gardaient le bateau, allait à terre à son tour. Il ne manquait jamais de s'enquérir des nouvelles. Il se rendait à la maison d'Hélène et attendait patiemment devant la grille jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le domestique chinois. L'homme ne refusait pas de leur répondre et il multipliait même des explications qu'on avait du mal à débrouiller. D'abord, le chinois se prenait la tête à deux mains et se lamentait. Hélène était perdue. Puis il disait son espoir à propos d'un détail insignifiant. Trois papillons s'étaient posés sur la fenêtre d'Hélène. Un oiseau avait chanté au moment où le docteur entrait. Hélène souffrait d'une fracture de l'épaule. On craignait surtout les conséquences d'une lésion interne. Elle paraissait désolée et demandait à revenir en Belgique. Monsieur Draper le lui promettait, mais on ne pouvait pas la transporter dans l'état où elle se trouvait. Les promesses la décevaient encore plus puisqu'elle ne pouvait se réaliser. Parpoil avait parlé de Gaspard à Monsieur Draper. Il l'avait désigné, sans rien savoir d'ailleurs, comme un complice d'Hélène. Monsieur Draper l'envoya promener. « Querelle, mauvais signe !» disait le chinois. Enfin, Parpoil avait rapporté comme preuve à ses dires les paroles mêmes de Gaspard. « Que Monsieur Draper interroge !» répétait le chinois. « Que Monsieur Draper se souvienne qu'il a vu le jeune Apache autrefois. Que Monsieur Draper donne le garçon à la police. Le garçon avait dit, Hélène reverra son vrai pays. Alors qu'est-ce que ça signifie? Mauvais signe, monsieur. » Le lendemain de cette querelle, Monsieur Draper parla de Gaspard à Hélène. Si l'on en croyait le chinois, Monsieur Draper aurait rapporté les paroles mêmes de Gaspard qui jurait qu'Hélène reverrait son pays. Qu'est-ce que ça signifie encore? Mais monsieur, moi j'ai vu les yeux d'Hélène. Une lumière elle avait dans les yeux. Telles étaient les nouvelles. Bien que déformées par le chinois, et une fois encore par les marins qui comprenaient mal son anglais, on parvenait à deviner la vérité, tantôt terrible, tantôt traversée d'espoir. Toute la semaine, Gaspard travailla sans relâche. Il était résolu, si jamais Monsieur Draper revenait sur le yacht, à lui demander de voir Hélène. Le samedi soir, M. Draper monta à bord. Gaspard avait entendu approcher le canot à moteur. Il se trouvait à la cuisine. Un marin vint l'appeler. M. Draper se tenait sur le pont, appuyé au bastingage. « Gaspard Fontarelle, si c'est bien ton nom, je t'apprends qu'Hélène est sauvée, » dit-il. Les yeux de Gaspard s'emplirent de larmes. « Comment as-tu connu Hélène, puisque tu étais enfermé dans ton réduit? Qui es-tu ?»«
J'étais à l'auberge de l'Hominval, » répondit le gardien.
« Je comprends, » dit M. Draper, « et tu as voulu rejoindre Hélène. »«
Je ne l'ai pas fait exprès, » dit Gaspard. M. Draper haussa les épaules.
« Et comme un enfant que tu es, tu croyais qu'Hélène recherchait vraiment sa famille ?» et son pays, et que tu pouvais l'aider. Il faut que tu abandonnes cette idée. Hélène est une artiste et a beaucoup trop d'imagination. Je ne sais ce qui a pu lui donner à penser que sa maman vivait encore et qu'elle s'appelle Maman Génie. A-t-elle reçu quelques lettres d'une intrigante qui voudrait abuser de son innocence? Pendant sa maladie, elle a déliré, elle a battu la campagne, et il était difficile de comprendre ses paroles. Je crains qu'une fois guérie, elle ne s'entête dans ses rêves insensés. Toi, Gaspard, tu pourrais m'aider. Car j'ai découvert qu'elle avait en toi une grande confiance. Je ne vois pas pour quelle raison.
Je ne vois pas pour quelle raison, répéta Gaspard.
Tu pourrais m'aider, reprit M. Draper, quoique mon secrétaire prétende que tu n'es qu'un propre à rien. et qu'Hélène te donne de l'argent pour que tu l'aides à fuir. En tout cas, moi, je peux te procurer bien des avantages si tu te conduis avec honnêteté et si tu renonces à ces sottises.
Je ne veux pas d'argent ni aucun avantage, dit Gaspard.
Pourquoi donc es-tu venu sur notre bateau? N'était-ce pas pour rejoindre Hélène?
C'est par hasard, répondit le garçon. Monsieur Drapeur n'avait d'autre souci que de sauver Hélène. Il lui semblait qu'il ne devait rien épargner pour hâter sa guérison, et si la compagnie de Gaspard pouvait encore la favoriser, il était décidé, malgré les conseils de Parpoil, à permettre que le garçon lui rendît visite. Mais il voulait d'abord le persuader qu'on devait empêcher Hélène de faire quelques nouvelles tentatives pour s'enfuir. Il apprit avec plaisir que Gaspard pouvait se recommander d'une famille honorable et particulièrement de Gabrielle Berlicot, la propriétaire du Grand Cerf. Afin de se faire un allié du garçon, il prit la peine d'expliquer de quelle façon il avait adopté Hélène. C'était pendant la guerre, en mai-juin 40, à cette époque où les gens fuyaient devant l'invasion allemande. Monsieur Drapeur se trouvait à Sedan au moment où l'ennemi arrivait sur la Meuse. Il fila dans sa voiture par les crêtes qui bordent le canal des Ardennes et il eut l'occasion de s'arrêter dans un village perdu pour demander son chemin. C'était le village de Stone, S-T-O-2-N-E, situé sur une colline couverte de forêts. Il frappa à une porte, une vieille femme l'accueillit, et il aperçut, dans le fond d'une vaste cuisine, d'abord un lit où une femme était couchée, puis un autre lit dans lequel dormait une petite fille blonde qui avait peut-être 5 ans. Il fut tout de suite séduit par le visage de la petite fille. Il posa des questions. La vieille femme lui dit « Les malheurs de la guerre sont grands. Cette femme que vous voyez est mourante. La nuit dernière, elle est arrivée ici. Je l'ai couchée. Elle n'a même pas su me dire d'où elle venait ni qui elle était. La petite fille qui l'accompagnait est aussi très malade. Le médecin prétend qu'il s'agit d'une longue maladie pour laquelle il faudrait de très grands soins. Il ne comprenait pas comment la petite fille avait pu marcher sur la route. Mais sa maman a dû la porter, ce qui l'a tout à fait épuisée. Sans doute ces gens viennent de la frontière. Maintenant, les habitants de Stone seront évacués d'un moment à l'autre. Le médecin m'a promis qu'il enverrait aujourd'hui une voiture de l'hôpital pour emmener la petite. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Hélène. » Monsieur Drapeur s'était avancé. Il regarda longuement le visage pâle d'Hélène. Il déclara « Moi, je peux l'emmener. Je la ferai soigner. Je peux emmener aussi la maman. »« La maman n'est pas transportable, » dit la vieille femme.
« Vous ne connaissez pas son nom ?»«
Elle n'avait sur elle aucun papier. Elle portait un simple paquet avec un peu de linge pour l'enfant qu'elle appelait Hélène. »
Monsieur Drapeur nota le nom de la vieille femme et il emmena la petite fille. Il prit aussi le paquet. Il gagna Reims, R-E-I-M-S. Il installa Hélène dans un hôtel et il appela à son chevet les meilleurs médecins. On lui dit que l'enfant pourrait guérir à condition d'être l'objet de soins constants. Il lui fallait de longs séjours dans la montagne. Monsieur Drapeur ne négligea rien pour rétablir la santé d'Hélène. La vieille femme de Stone avait insisté pour lui donner le petit paquet, quoique Monsieur Drapeur l'eût jugé inutile. Mais elle avait fait observer que le paquet contenait un livre d'images auquel l'enfant pouvait tenir, et aussi quelques bibelots et des bijoux de pacotille. Lorsque Monsieur Drapeur ouvrit le paquet un peu plus tard pour donner le livre à Hélène, il découvrit que les bijoux n'étaient pas faux, quoique sans grande valeur. Il y avait une croix ornée de petites perles et un bracelet d'argent. Ainsi, Hélène fut adoptée par M. Drapeur. En vain, il chercha dans la suite à retrouver la vieille femme de Stone afin d'apprendre si la maman d'Hélène était morte.
Le village était détruit de fond en comble. La vieille femme avait été une des premières victimes du bombardement, tuée par un éclat comme elle discutait dans la rue avec un officier. La maman d'Hélène avait dû périr sous les décombres. Si elle avait été évacuée au dernier moment, comment rechercher sa trace? Dans quel hôpital ou dans quelque cimetière? Monsieur Draper ignora toujours s'il restait à Hélène d'autres parents. D'après ce que Gaspard put comprendre, le diamantaire ne s'était pas attaché à la petite fille par une simple affection. Avant même qu'à force de soins, il eût obtenu sa guérison, il fut étonné de l'intelligence d'Hélène et se persuada qu'elle avait quelques dons exceptionnels qu'il lui fallait découvrir. Monsieur Draper avait mené une vie qui comportait de longs loisirs, bien qu'elle fût consacrée aux affaires. C'était un amateur d'art. Il avait rêvé d'être un musicien célèbre. Mais ayant dû, pour sa part, renoncer à cette ambition, il la reporta sur Hélène et tâcha de lui donner tous les moyens de se révéler une artiste. Il l'avait intéressée dès son jeune âge aux études musicales et il avait lieu de croire qu'elle comblerait ses vœux. Hélène mena une vie régulière, disciplinée et pourvue de tous les conforts qui favorisent le développement de l'intelligence et du corps.
« Toi, Gaspard, tu es un villageois, » conclut M. Draper. « Tu ignores les questions de l'art et même ce qui concerne la vie en général. Mais tu dois avoir du bon sens. Si tu as pu croire qu'Hélène était malheureuse et qu'elle avait raison de rechercher sa famille et son pays, tu dois comprendre maintenant que c'est une folie. Si elle a de l'amitié pour toi, comme je le pense, tu l'engageras à poursuivre la carrière pour laquelle certainement elle est destinée et où elle trouvera le bonheur. » Monsieur Draper parlait bien. Gaspard se sentait confus de recevoir ses confidences après avoir été méprisé et maltraité. Il n'y avait pas lieu de douter de la sincérité de Monsieur Draper. L'homme tenait avant toute chose à la réussite d'Hélène selon un plan raisonnable qu'il s'était tracé. On ne pouvait que l'approuver. Cependant, il manquait à M. Draper de comprendre les espoirs de sa fille adoptive. Gaspard ne pouvait renoncer à l'idée que de tels espoirs avaient plus d'importance que tout le reste. Maman Génie existait. Le grand pays existait en quelques régions. Le livre d'images le prouvait. Hélène ne pouvait renoncer à découvrir son pays et sa famille. M. Draper pensait d'ailleurs qu'il ne fallait pas à ce moment contrarier Hélène à ce sujet et que sa guérison dépendait même des assurances qu'on lui donnerait.
« Je vais te conduire auprès d'Hélène, » dit-il à Gaspard. « Il faut, pour qu'elle guérisse, que tu ne la contredises pas si elle te parle de son pays et de sa famille. »
« Plus tard, nous lui montrerons combien elle se trompe et je pense qu'elle le reconnaîtra d'elle-même. »
C'est un âge difficile qu'elle doit passer.
Monsieur Draper, après avoir sermonné Gaspard, le conduisit à la coupée et le fit descendre avec lui dans le canot. Gaspard regardait le costume misérable dont il était vêtu.
Rassure-toi, dit Monsieur Draper, nous allons passer dans un magasin et t'habiller comme il faut.
Le canot à moteur fendit rapidement les eaux du port et aborda au quai. Le pilote salua M. Draper, qui aussitôt gagna la ville avec Gaspard. Chez un tailleur de la rue principale, on trouva pour Gaspard un costume de toile grise et M. Draper lui acheta aussi des souliers, une chemise et même une cravate. Gaspard l'en remercia. Quand ils arrivèrent à la maison des Smith, le domestique chinois vint leur ouvrir avec empressement. Ils gagnèrent la chambre d'Hélène, qui se trouvait au rez-de-chaussée, et donnait sur le jardin. Par la fenêtre, on voyait un palmier. Hélène était couchée dans un grand lit, ses mains amaigries posées sur le drap. Son visage portait les traces d'une grande fatigue, mais elle souriait.
« Je ne pouvais pas croire, dit Hélène, que vous amèneriez Gaspard. »
« J'ai appris que c'était Gaspard Fontarel, de l'auberge du Grand Cerf à Lominval, dit Monsieur Draper. » Vous avez fait ensemble une escapade et vous en projetiez d'autres.
Monsieur Parpoil prétend que j'ai grand tort de pardonner. Cependant, je crois que c'est la solution la plus raisonnable. »
Hélène fit signe à Gaspard de s'asseoir sur une chaise auprès de son lit. Ils ne surent que dire en présence de Monsieur Drapeur.
« Je regrette qu'on t'ait maltraité, » dit Hélène. « Je n'y pouvais rien. »
« Je le regrette tout autant, » dit Monsieur Drapeur. « Nous ne savions pas qui était Gaspard. Le capitaine et Monsieur Parpoil ont exigé la sévérité. »«
C'est ma faute, certainement, » dit Gaspard.
« Le voyage de retour sera plus agréable, » dit Hélène.
C'était en somme une conversation assez indifférente. Monsieur Drapeur quitta la chambre pour aller rendre visite au Smith. Aussitôt, Hélène dit.
« Dans quelques jours, je pourrai quitter cette maison et retourner à Anvers sur le yacht. Cet imbécile de Parpoil a cru bon de t'accuser et de rapporter ce que tu avais dit. Cela m'a donné confiance et M. Drapeur a compris que je ne pourrais pas vivre si je n'avais plus l'espoir de revoir mon pays.
« Tu le reverras, » dit Gaspard.
« Répète-moi que je le reverrai. »«
J'en suis sûr, » dit Gaspard. Il regarda le palmier qu'on voyait par la fenêtre.
« C'est pas comme dans le pays de Maman Génie, » dit Hélène. Il manque les bouleaux, les pommiers et la terre noire.
Je me demande ce que c'est que cette terre noire, dit Gaspard. Ils firent des projets jusqu'à ce que M. Drapeur rentrât avec le médecin. Gaspard prit congé d'Hélène et alla attendre M. Drapeur dans le vestibule. M. Drapeur vint le trouver une demi-heure plus tard.
Nous partons dans 3 jours, dit-il à Gaspard. Le médecin assure qu'il n'y a plus aucun danger. Un docteur nous accompagnera jusqu'à Anvers. Ce n'est pour moi qu'une petite dépense. En ce qui te concerne, je vais envoyer un télégramme à l'homme Inval pour rassurer ta tante. À notre arrivée, je te ferai reconduire chez elle. J'ai même une certaine idée.
Après avoir réfléchi, M. Drapeur reprit.
Mon secrétaire est toujours pour les solutions de violence, dit-il. Ce n'est pas mauvais dans certains cas. Si, par exemple, tu devais favoriser une nouvelle tentative d'Hélène, je serais impitoyable. On vous retrouverait et je ferai en sorte que tu sois envoyé dans une maison de redressement. »
Après un silence.
« Voici mon idée. Tu retourneras à l'homme Inval, mais auparavant, tu jureras à Hélène de rechercher sa famille et son pays. Tu ne risques rien. Ce pays n'existe pas et sa famille a complètement disparu. D'ailleurs, aucun indice ne pourrait te guider, mais tu lui jureras que tu cherches. Je t'inviterai quelques jours, de façon que tu puisses venir assurer à Hélène que tu t'es mise en quête et qu'il est impossible de rien trouver. En somme, la pure vérité. En cela, j'agirai et tu agiras selon la justice, puisqu'il faut simplement faire en sorte qu'Hélène oublie ses pensées folles. Tant qu'elle croira que tu l'aides, elle demeurera à la maison, d'autant plus qu'elle se ressentira de sa maladie. Et peu à peu, l'idée lui passera. »
Gaspard ne put rien faire d'autre que promettre de suivre les instructions qu'on lui donnait. Il lui semblait juste maintenant de préserver Hélène d'une tentative inutile et de l'empêcher de gâcher sa vie. Cependant, il gardait un remords qu'il ne s'expliquait pas. André d'Hôtel, Le pays où l'on n'arrive jamais, 5e cassette, 2e face, page 140.